RFI 5h à Paris, 2h de moins en temps universel.
Andréane Mélard.
Bonjour à toutes et à tous. À la une, pour Joe Biden, un cessez-le-feu est possible demain dans la bande de Gaza si le Hamas relâche les otages israéliens détenus depuis le 7 octobre. Une nouvelle fois, des manifestations ont eu lieu hier en Israël pour réclamer leur libération. Et dans ce contexte de guerre entre Israël et le Hamas, la candidate aux élections européennes, Rima Hassan, était en Tunisie hier, un déplacement largement consacré à la cause palestinienne, vous l'entendrez. Et puis dans ce journal, on va aussi parler du Niger, où on revient ce matin sur la plainte déposée par l'ex-président Mohamedou Issoufou contre l'ambassadeur de France au Niger. La bande de Gaza à nouveau bombardée. Hier, toute la journée, au moins 21 Palestiniens ont été tués dans ces frappes menées sur l'ensemble du territoire, augmentant encore le bilan de l'opération militaire d'Israël dans l'enclave palestinienne. Celui-ci approche les 35 000 morts selon le ministère de la Santé du Hamas depuis le 7 octobre et l'attaque sanglante du mouvement sur le sol israélien, attaque qui, elle, a fait près de 1 200 morts. Aujourd'hui, l'offensive menée par l'État hébreu se concentre sur le sud de la bande de Gaza, aux alentours de Rafah, mais aussi dans le nord. Et dans le même temps, les négociations entre les parties prenantes pour une trêve sont au point mort. Ce samedi, des dizaines de milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées en Israël, notamment à Tel Aviv, pour appeler au départ du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, accusé d'utiliser la guerre pour se maintenir au pouvoir. Mobilisation aussi pour demander la libération des otages retenus par le Hamas depuis le 7 octobre. Michel Paul est notre correspondant en Israël, il a interrogé des manifestants en colère.
Des manifestations de plus en plus violentes. Visiblement, les familles d'otages perdent patience et la police fait usage de la force. Ayala Metzger, dont le beau-père Yoram est aux mains du Hamas à Gaza, a eu des mots très durs à l'égard du premier ministre israélien.
L'entrée dans Rafah et l'extension de l'opération repoussent tout accord et met en danger nos proches. Tant que Netanyahou est au pouvoir, les otages ne reviendront pas parce que Netanyahou ne veut pas qu'ils rentrent à la maison.
Peu après, Ayala Metzger a été détenu lors de heurts avec la police. Comme beaucoup de manifestants, Jacques Korkos est lui très perplexe sur la marche à suivre.
Si on arrête la guerre, j'ai l'impression, mais c'est une impression, qu'on aura les otages. Mais tant, allez savoir, est-ce que vraiment le Hamas va respecter des accords ? Je ne suis pas tout à fait sûr. Et c'est ça aussi qui nous laisse dans une situation de frustration terrible.
En fin de compte, la police a utilisé des lances à eau à Tel Aviv et à Jérusalem pour disperser les manifestants. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Pour le président américain Joe Biden, un cessez-le-feu à Gaza est possible demain si le Hamas libère les otages. Le président américain s'exprimait lors d'une réception de collecte de fonds près de Seattle, au domicile d'un ancien responsable de Microsoft. Et c'est dans ce contexte de guerre entre Israël et le Hamas que Rima Hassan était en Tunisie hier, et il a largement été question de la cause palestinienne lors de ce déplacement de la candidate aux élections européennes pour le parti français d'extrême gauche, la France Insoumise. Rima Hassan, qui a des origines palestiniennes, intervenait dans le cadre du Forum social maghrébin aux côtés de Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, ou encore Michel Siboni, porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Amira Swilem a assisté à leur prise de parole.
Rima Hassan. C'est celle que tous ici attendaient. En Tunisie, pays où la défense de la cause palestinienne ne souffre aucune critique, Rima Hassan est en terrain archi-conquis.
Merci beaucoup de...
Alors que la guerre à Gaza est entrée dans son 8e mois, elle a mis sa campagne pour les européennes entre parenthèses, le temps d'un week-end de militants à Tunis.
Ça s'inscrit dans ce que l'Afrique du Sud a fait devant la Cour internationale de justice, c'est-à-dire la saisine par le Sud global du droit international, de cette question et de se resituer aussi dans son rôle. Je dis souvent que j'ai un pied en Orient, un pied en Occident, et donc être là et être aussi candidate au Parlement européen, ça s'inscrit dans ce parcours de faire pont entre ces deux mondes qui doivent avancer pour le respect du droit international.
Rima Hassan fait partie de ceux qui utilisent le terme de génocide pour décrire la situation à Gaza. Récemment, elle a aussi déclaré qu'Israël était pire que la Russie, autant de prises de position qui lui valent des critiques et des menaces en France. Rien à voir en Tunisie. À peine son intervention terminée que des dizaines de personnes se ruent sur elle pour la féliciter et prendre des selfies.
Qu'est-ce que ça vous apporte d'être là face à une salle et dans un pays qui est quand même complètement inquiétant ?
De l'apaisement, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des moments où on a besoin aussi d'avoir des espaces où on peut dérouler son propos, où on est compris, et c'est extrêmement précieux ça.
Après cette parenthèse tunisienne, Rima Hassan va retrouver la France où elle est en campagne et où elle a été convoquée par la police pour apologie du terrorisme suite à des propos en lien avec les massacres du 7 octobre en Israël. Amira Suilem, Tunis, RFI.
Les Nations Unies, par la voix de la coordinatrice du Bureau des Affaires Humanitaires pour le Soudan, mettent en garde ce dimanche contre des tirs à l'arme lourde faisant de nombreuses victimes dans la zone du Darfour Nord, plus précisément son chef-lieu El Fasher, zone jusqu'ici relativement épargnée par les combats menés dans le cadre de la guerre sanglante qui ravage le Soudan depuis plus d'un an et oppose l'armée régulière aux paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR. Au Niger, le Premier ministre a émis de vives critiques hier à l'encontre des autorités béninoises, en cause la fermeture de la frontière côté nigérien et le blocage des exportations d'hydrocarbures de l'autre côté. La Minzen accuse Porto Novo de vouloir asphyxier économiquement le Niger. Il a aussi affirmé détenir la preuve de la présence de 5 bases françaises au Bénin où s'entraînent, je cite, des terroristes qui doivent déstabiliser le Niger. Le Niger, justement, où l'ancien président Mahamadou Issoufou a déposé une plainte cette semaine contre l'ambassadeur de France Sylvain Ité qui a dû quitter Niamey en septembre dernier. Plainte pour diffamation après des propos tenus par Sylvain Ité lors d'une audition à huis clos devant une commission de l'Assemblée nationale française. L'ambassadeur évoquait l'implication de l'ancien chef de l'État dans le renversement de son successeur Mohamed Bazoum en juillet dernier. Magali Lagrange.
La plainte pour diffamation par un moyen de communication électronique et diffusion de données de nature à porter atteinte à la dignité humaine a été déposée lundi au tribunal hors classe de Niamey par la défense de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou. Elle vise l'ambassadeur de France pour le Niger, Sylvain Ité, mais aussi le secrétaire général de l'Assemblée nationale et l'État français. Cette plainte fait suite à la publication sur le site de l'Assemblée nationale française du compte-rendu d'une audition à huis clos de Sylvain Ité devant la commission de la défense de l'Assemblée. L'ambassadeur de France pour le Niger, qui a dû quitter le pays 2 mois après le coup d'État, y pointait l'implication directe de Mahamadou Issoufou dans le renversement du président Mohamed Bazoum en juillet dernier. « Nous estimons avoir été diffamés », explique l'avocat de l'ancien chef de l'État. La plainte, avec constitution de partie civile, est désormais entre les mains du juge d'instruction, poursuit Maître Ilo Issoufou, qui compte sur l'accord de coopération judiciaire entre la France et le Niger pour que la procédure soit mise en œuvre. Sylvain Ité dit ne pas avoir été informé d'un dépôt de plainte à son encontre et ne pas avoir de commentaires à faire à ce stade.
Magali Lagrange. Au Burkina Faso, des milliers de personnes, tous soutiens du capitaine Ibrahim Traoré, se sont rassemblés hier à Ouagadougou au stade de Joseph Issoufou Konombo. Manifestation organisée par la Coordination nationale des associations de veille citoyenne et elle avait pour principal objectif de réclamer une prolongation de la transition afin de maintenir le chef de la junte au pouvoir. On vote aujourd'hui en Lituanie, c'est le premier tour de l'élection présidentielle, scrutin qui se tient sur fond de guerre en Ukraine. D'ailleurs, les deux candidats favoris affichent leur soutien à Kiev. Gitanas Nausieda, le chef de l'État sortant, est en tête des sondages et juste derrière lui, on trouve sa première ministre Ingrida Simonite. Mais la guerre en Ukraine a aussi largement pesé sur l'économie lituanienne. Anishka Kumor.
L'année 2023 a marqué le point le plus bas pour l'économie lituanienne. La hausse des taux d'intérêt a plombé l'investissement et le pouvoir d'achat des Lituaniens. Aujourd'hui, les choses s'améliorent avec un peu plus d'1%. L'inflation y est l'une des plus faibles dans la zone euro. Les travailleurs ont vu leur salaire augmenter, ce qui devrait tirer la demande intérieure. La situation est toutefois contrastée d'un secteur à l'autre. Des entreprises des sciences de la vie appliquées dans l'environnement, l'agriculture, la médecine ou encore l'industrie pharmaceutique ont le vont en poupe. Si le taux de chômage baisse, il est encore d'environ 20% parmi les jeunes. La Lituanie a été le premier État européen à se passer complètement du pétrole et du gaz russe. Si l'électricité y est encore importée de Suède, de Pologne et de Finlande, Vilnius investit massivement dans les énergies renouvelables. D'ici à 2027, la Lituanie assure d'être en mesure d'exporter de l'électricité, notamment vers l'Allemagne et la Pologne.
Agnieszka Kumor, Nemo. L'artiste suisse a remporté hier la finale de la 68e édition de l'Eurovision avec sa chanson The Code, premier artiste non-binaire à être sacré dans l'histoire de cette compétition. Non-binaire, c'est-à-dire qui ne se revendique ni homme ni femme. Un article approfondi et consacré à cette soirée est à retrouver sur notre site rfi.fr. 5h10 à Paris.